C'est Gros Stick sur Radio Campus Bordeaux. Je ne sais pas si on va garder ce générique. Vous êtes très dissipé quand vous entendez ce nouveau générique 2022-2023. En face de moi, pour ce nouveau Gros Stick, Ludovic. Salut Ludovic.
Shabbat shalom.
Nathan,
hi, hi.
Notre mascotte de Gros Stick et de Radio Campus. Hein.
J'ai été promu.
T'as été promu mascotte de Radio Campus. C'est Joris.
Bon. Hey, salut.
Et aussi Mélissa qui est avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir Mélissa. Et on attend notre cher béret qui devra arriver d'une minute à l'autre.
Il est souvent en retard. Hein.
Sur son béret volant.
Oui, voilà, mais les minutes, c'est pas pareil que pour nous. Une minute de béret, c'est pas pareil que pour nous. Voilà.
Oui, tu sais, les gens de chez lui, tu vois, ça prend plus de temps, les choses, tu vois. Ouais.
Voilà. Distorsion temporelle.
Mais il va arriver, hein.
Oui. On a confiance. On fait confiance.
Alors, ce soir, dans Gros Stick, une thématique pas piquée des hannetons, puisqu'on va parler de la manette, du joystick, du périphérique de jeu.
Du gros stick.
Comme prolongement, prolongation. Hein, il y a des synonymes en pagaille, de la main, du corps, voilà, sur cette personnalisation du périphérique de jeu qui fait de nous une machine vivante, finalement. Et ça, c'est pour le transhumanisme que je dis ça, puisqu'on y arrive, le jeu vidéo, ça sera ça, peut-être, plus tard, pour le plus grand plaisir de Mélissa. Il y aura aussi des chroniques dans Gros Stick, puisque Ludovic sortira le matos.
Oui, hein, le gros matos.
Le gros matos, parce que... Et c'est le cas de le dire.
Et il est gros. Hein.
Il est gros.
Oh là là, oui.
Je l'ai en main.
Oh là là. Dieu.
Oh là là, il est,
il est gros et massif.
C'est un très très gros matos, ce Ludovic. Joris,
oui,
lui,
le petit matos.
Sortira son petit matos. Et Nathan nous gratifiera d'un beau test.
Ouais, hein, voilà. Mais d'un beau test sur la mécanique. Donc, enfin, un jeu qui parle de mécanique.
Voilà, on reste dans quelque chose de bien viril. Ouais. Et Béret, lui, fera son test aussi. Il y a pas mal de choses dans Gros Stick ce mois-ci. Et Mélissa nous fera un ovni, c'est ça,
hein? Tout à fait, oui. Un ovni qui s'intitule « Like et toi ».
Voilà. Et je vous proposerai d'écouter une musique de mon pédigré.
Évidemment.
Voilà, pédigré. Je cherche le
jingle. La thématique. Gros Stick. La thématique.
Alors la thématique, je ne vais pas l'expliciter à nouveau, je crois qu'on a bien compris. On va parler des périphériques de jeu et cette fascination, cette attirance qu'on peut avoir pour son périphérique de jeu, hein, en fin de compte. Parce que j'ai remarqué souvent qu'on est très attaché à notre périphérique de jeu. Et aujourd'hui, comme jamais, on va dire qu'on est dans une situation où on a une manette qui va nous servir sur plusieurs systèmes de jeu et ça va être la même manette. Ce qui n'était pas le cas du tout il y a quelques années où une manette PlayStation 2 était une manette PlayStation 2, une manette Xbox était une manette Xbox. Je ne vais pas faire toutes les consoles comme ça, mais c'était très associé. Aujourd'hui, on joue un peu avec la même manette puisque avec les manettes sans fil, les manettes 8 bits d'eau, les manettes qui servent sur plusieurs supports, on peut amener sa manette n'importe où, chez son pote, la brancher, et ça fonctionne. Voilà. Et c'est aussi le cas dans les tournois de jeux vidéo, notamment dans les tournois de jeux de combat, où vous ne verrez jamais un joueur ne pas arriver avec son propre périphérique de jeu, que ce soit sa manette toute cabossée, mais intime, intimement lié au joueur, ou le gros stick qui va sortir de son sac, qu'il n'y a que lui qui peut jouer là-dessus, tellement c'est défracté, mais c'est son truc. Ça lui parle qu'à lui. Voilà. Alors, est-ce que vous, dans votre pratique du jeu, vous avez cette relation particulière au périphérique, voilà. Et est-ce que vous essayez aujourd'hui de jouer à plusieurs consoles avec la même manette? Oui, Ludovic.
Oui, et je suis assez d'accord sur cette espèce de lien. C'est quasiment un lien fraternel, le lien de père à fils, le lien que certains joueurs ont avec leur manette. C'est vraiment leur manette, même si elle est déconnectée, même si le joystick fonctionne une fois sur deux, même si les gâchettes sont grippées ou sont d'un autre temps. Il y a vraiment des joueurs qui sont vraiment très attachés à leur manette. D'ailleurs, je prends un cas vraiment typique d'une manette qui est assez particulière, qui est la manette GameCube. C'est-à-dire que moi, j'ai des connaissances qui jouent beaucoup à Smash Bros. Ou qui jouent à d'autres jeux et qui ont la même manette de GameCube de l'époque, qui la font réparer, réparer, etc. Mais ils ne veulent pas du tout en racheter une autre. C'est vraiment leur manette GameCube de leur enfance qu'ils ont depuis 20 ans aujourd'hui. Donc, et en plus, aujourd'hui, en termes de customisation de manette, il y a des solutions énormes avec le Xbox Lab Design, etc. Donc oui, pour beaucoup de gens, c'est assez intime, la manette.
C'est important, quoi. Voilà, Nathan.
Et c'est même tellement intime que tu as parlé du fait de la première manette. Et moi, je me rapproche beaucoup de ça, puisque j'ai commencé à vraiment jouer aux jeux vidéo avec la DS. Et rétrospectivement, je n'ai jamais aussi bien joué aux jeux vidéo que sur une DS. Je ne me suis jamais senti aussi à l'aise que dans la prise en main avec une DS, peu importe le modèle de DS. La DS, pour le coup, c'est ma manette confort, et si jamais on me donnait l'opportunité de jouer à absolument n'importe quel jeu avec une DS, je le ferais absolument sans hésiter. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas tellement quitté, puisque ensuite j'ai eu la PS2, et pareil, depuis je ne fais tout à la manette. Alors je n'ai pas ce même rapport de manette, étant donné que dans ma pratique de jeux vidéo, c'est surtout la praticité et l'habitude que m'apporte la manette. Donc peu importe la manette, maintenant moi je suis avec une manette de Xbox One X parce que la connectique était vachement plus intéressante, je peux me connecter à n'importe quel PC, et que la PS4 avec qui j'ai évolué tout le temps, c'était chiant pour la connecter, il fallait un logiciel qui marchait pas tout le temps, pas avec tous les jeux, alors que Xbox, tout de suite c'est reconnu par Microsoft.
Mélissa.
Alors moi au début j'avais rien compris à la thématique et je pensais que c'était un truc de garçon parce que moi j'ai jamais vu de fille sortir son stick ou sa manette de son sac, donc j'étais un peu perdue. Mais Nathan, ce que vient de dire Nathan m'a beaucoup éclairée, parce que pour ma part en fait, si j'étais un peu perdue vis-à-vis de la thématique, c'est que j'ai beaucoup plus joué sur des consoles portables que des consoles de salon. Ma seule console de salon, enfin j'en ai eu deux, j'ai eu une Xbox, la toute première Xbox de première génération quand j'étais plus jeune, et j'ai eu la Wii. J'ai surtout davantage joué à la Wii, donc avec la Wiimote et le Nunchuck, et c'est vrai que c'était un truc qui était spécifique à la console de salon de la Wii. D'ailleurs après il y a eu la Wii U, c'était plus trop le même système, il y avait un espèce d'écran de tablette, etc. Et donc ça me parlait pas trop, mais comme tu disais Nathan, c'est vrai que moi ce rapport que j'ai développé à la Nintendo DS, qui était un peu, moi j'ai eu un peu toutes les consoles, donc j'ai eu la Game Boy Advance, la Game Boy Advance SP et la DS, et vraiment la DS pour moi c'était une sorte de mini révolution dans les consoles portables, donc c'est celle que j'ai le plus pratiquée, mais le fait d'avoir beaucoup joué sur des consoles portables, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Donc moi quand on parle de jeux vidéo, certes je trouve que c'est très agréable par exemple de jouer avec une console de salon parce qu'il y a la télé, il y a le grand écran, c'est plus immersif, etc. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un côté plutôt cosy, mais d'avoir sa console portable à soi, il y a le côté portabilité aussi qui est plutôt intéressant. Et aujourd'hui ma console de référence c'est la Switch. Et ça m'arrive encore de me replonger dans des jeux de DS, parce que déjà c'était pas du tout une mauvaise console. Moi je trouve qu'il y a des jeux qui ont très bien vieilli, notamment sur la 3DS. Et c'est vrai que pour moi, au-delà du rapport d'affection, il y a aussi un rapport par rapport à l'habitude, tout simplement, et aux habitudes qu'on développe en tant que joueur.
C'est physique. C'est quelque chose qu'on tient dans les mains, donc il y a un côté physique, il y a une relation du tactile, alors la DS encore plus parce que là on est à même l'écran, alors que ce soit avec un stylet ou avec les doigts, il y a une proximité évidente du joueur entre le corps du joueur et le périphérique de jeu, puisque ce périphérique de jeu vous permet d'être en interaction avec le jeu, en interaction avec les personnages, en interaction avec parfois aussi ce qui se passe à l'écran, etc. Donc, il y a un rapprochement évident entre l'homme, pas la machine, mais le périphérique de jeu. Donc, c'est normal, je pense qu'il y ait ce rapport assez intime pour certains joueurs entre un stick, une manette et leur corps. Oui, Joris d'abord et après Nathan.
Moi, j'avais un message à faire passer. Oui. Tu parlais de ce rapport intime qui parfois est un peu trop intime des joueurs envers leur manette. Et moi, c'est quelque chose que je voudrais, message que je voudrais adresser à nos gamers. À qui c'est pas arrivé quand tu vas chez un pote, il te passe sa manette un peu de secours et elle est dégueulasse. Et vraiment, respectez vos manettes, s'il vous plaît.
C'est super d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet réel. Voilà. C'est qu'on lave et on nettoie très rarement les manettes. Oui, Joris.
Et je suis sérieux. Enfin,
et on mange avec aussi.
Votre manette n'a rien demandé. Elle n'a pas demandé à être graissée après votre paquet de chips. Elle n'a pas demandé à être, à avoir des fluides qu'importe sur elle, corporelle.
Mais quel genre d'amis tu as.
Et donc, s'il vous plaît, nettoyez vos manettes. C'est important. Vraiment, c'est important.
C'est clair que c'est aussi un nid à microbes, la manette. Quand se passe une manette d'un joueur à l'autre, il faut penser à ça. C'est comme le clavier de l'ordinateur.
Ou le smartphone.
Voilà. Alors, moi, je parle de clavier d'ordinateur parce que ça peut être ça aussi, le périphérique fétiche, parce qu'on s'adresse à Grostic, pas qu'aux joueurs de console, de jeu, mais aussi d'ordinateur, de PC. Et le clavier, là, on salue Nico Béré qui est arrivé, et puis je pense qu'il va souscrire complètement à ce que je suis en train de dire. Le clavier est aussi un périphérique de jeu. Hein. Et parfois, on essaie d'avoir le meilleur clavier possible, celui qui nous ressemble, celui le plus ergonomique, celui peut-être le plus adapté à son corps, puisque on va peut-être pas avoir le même clavier si on a des grandes mains, si on a des petites mains, et c'est pareil un petit peu pour les manettes. C'est pour ça qu'il y a une proximité, comme je disais, avec le corps. Qu'est-ce que t'en dis, cher Béré ?
Oui. Oui, non, mais en effet, c'est vrai que... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Le clavier, c'est vrai qu'en soi, c'est aussi un périphérique qui est populaire, voire peut-être même, je pense, équivalent en termes de popularité avec la manette. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas pas autant ce côté personnalisation qu'on pourrait retrouver dans les manettes ou dans les sticks arcade. Il y a plus ce côté pratique, en fait, où on veut juste avoir un clavier qui fonctionne. Et ça va se tourner du coup vers des claviers dits mécaniques. Enfin, voilà, je pense par exemple que Ludovic a des choses à dire là-dessus.
Oui, mais justement, alors moi je serais pas d'accord parce que justement, ce qui a un peu changé dans le monde du clavier, c'est justement avec les claviers mécaniques, t'as un aspect customisation assez intense qui est apparu, qui n'existait pas du tout dans le monde du clavier où c'était vraiment le meilleur clavier qui était choisi. Et en effet, il y a une espèce de rapprochement entre le monde de la manette avec les customisations de manette et le monde du PC avec les customisations de souris et de clavier qui fait qu'il y a des gens qui ont des thèmes de clavier selon leur équipe de foot, selon le jeu qu'ils y jouent, selon des thèmes de couleurs. Donc il y a une espèce d'intimité avec son clavier.
Nathan.
Qu'il faut nettoyer aussi.
Nathan. Oui, il faut nettoyer les périphériques, mais on parlait de l'intimité, de la customisation. Et moi, quand je parle manette, je comprends aussi le clavier et la souris. C'est qu'en fait, selon ma vision, chaque périphérique est en fait un langage à lui tout seul. Et c'est un langage mécanique que seules certaines personnes peuvent comprendre. Chaque personne a son propre langage mécanique. Et forcément, moi qui, par exemple, étais habitué uniquement à des consoles portables ou des manettes, ben passer sur clavier-souris, n'en dépit mes amis qui tentent désespérément de me faire adopter le clavier-souris, ben je fais pas ça en 2 semaines en fait, c'est trop complexe. C'est comme si vous me demandiez d'apprendre une langue, je déconne même pas en fait. Et je pense que c'est vraiment le cas pour beaucoup de gens. Sauf que peut-être que le passage de clavier-souris-manette est plus facile.
Mélissa.
Oui, moi, alors, deux choses, hein, pour rebondir sur ce que tu disais, Nathan. C'est vrai que moi, j'ai toujours joué, pour le coup, sur des consoles faites exprès pour le jeu. Et c'est vrai que la première fois que j'ai essayé de jouer à un jeu sur PC, souvent, selon les jeux, c'est pas forcément les flèches, c'est les lettres qui correspondent aux flèches. Et moi, j'étais complètement perdue. Et c'est quelque chose qui m'a bloquée. Et je me suis dit, OK, jouer sur PC, c'est pas pour moi, j'aime pas. Donc après, avec un peu de recul et en s'y mettant, hein, c'est tout à fait accessible. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a moins de praticité, pour moi en tout cas, à jouer sur PC que sur console de salon ou portable. Parce que comme tu le disais, il y a un langage propre. Et toi, Ludovic, tu parlais de customisation. Et on évoquait aussi le fait que la manette pouvait être une extension. Mais c'est aussi la manette, elle peut nous amener à jouer d'une autre manière et à compléter une sorte d'accessoire ou d'outil. Je pense par exemple à tous ces jeux où souvent le jeu est vendu avec un accessoire particulier pour être encore plus immergé dans le jeu. Exemple bateau, Mario Kart avec le volant, où il faut insérer la manette pour que le volant soit actif. Ou à tous ces jeux un peu de musique ou Guitar Hero, où on insérait la manette et ça fait une guitare. Où il y avait eu DJ Hero aussi, jeux de batterie, les jeux de danse où on insérait la manette pour que ça capte le capteur, etc. Et on voit qu'en partant de la manette, il y a eu plein de tentatives réussies ou pas, d'invention en tout cas, d'inventivité pour amener le joueur vers d'autres horizons.
D'enrichir la manette de base.
Oui, tout à fait. Ouais.
Béré.
Oui, par rapport à ce que disaient Nathan et Mélissa, en vrai, c'est tout à fait c'est pas du tout faux en fait que ben en soi le passage de clavier souris à la manette est plus facile vu qu'en soi moi je parle d'expérience parce que ben, comme mon père est informaticien, ben, j'ai grandi entre guillemets entouré de PC, donc j'ai très tôt par rapport à d'autres eu un accès à un clavier, à une souris, et c'est vrai que du coup ben je me suis familiarisé assez rapidement. Et du coup, le passage entre les deux m'a jamais posé problème, en fait. Parce que du coup, bon, après, malgré tout, il y a quand même eu tout ce langage à apprendre que tu as mentionné, Mélissa, les flèches directionnelles, les flèches lettrées, qu'est-ce que ça fait de taper sur E, etc. Enfin bref, tout ce langage dont on parle jusqu'à présent. Mais c'est vrai que je pense l'inverse, en vrai, est assez... passer de manette à clavier, je ne l'ai jamais vécu, mais je suis d'accord avec le fait que c'est plus complexe vu qu'en soi. Pour moi, en fait, la manette, et je ne dis pas ça du tout pour mépriser ou quoi la manette, mais pour moi, je considère la manette comme une sorte de version simplifiée et efficace sur console du langage clavier. C'est-à-dire, ben, on enlève tout ce qui est côté utiliser les lettres et chat, et vraiment, on essaye de condenser. On utilise le clavier pourquoi dans les jeux vidéo ? C'est quoi les touches principales ? Et comment est-ce qu'on peut adapter ça pour la manette ? Et après, bien sûr, ben, comme l'a dit Nathan, il y a également l'inverse qui se produit. Le clavier, de plus en plus, ben, partiellement se s'inspire du langage manette pour certains jeux, je pense notamment au FPS, enfin, tout ce qui est jeu très nerveux et qui demande des réflexes.
Nathan.
Mais c'est vrai, ça, ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, c'est que quand on y pense, c'est vrai que la manette est quelque chose de vachement plus aseptisé, dans le sens où tout nous est donné et t'as pas de questions à te poser. Moi, je suis quelqu'un qui me pose des questions cons tout le temps, et donc quand tu mets un clavier, bon, déjà en dehors du fait qu'il faut être coordonné pour clavier souris et que moi j'ai zéro coordination, t'as aussi le fait de, mais pourquoi les touches pour avancer, elles sont en haut à gauche ? Pourquoi l'inventaire, il est là-bas ? Pourquoi c'est certaines lettres qui te font avancer ? En plus, ça change en fonction des jeux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu peux changer tes touches toi-même et ton cerveau explose et tu fais, c'est n'importe
quoi. Parce que tout simplement, à la base, un clavier n'est pas fait pour jouer.
Mais
tout.
Oui, mais c'est ça qui est ouf. Et c'est pour ça, je pense que... Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à...
C'est le joueur qui s'habitue au clavier. Ce n'est pas le clavier qui s'habitue au joueur. Même si aujourd'hui, peut-être que la disposition des touches sur des claviers qui vont être utilisés par essentiellement des joueurs, peut-être qu'il y a une variation des positionnements des touches, peut-être. Ou une matérialisation différente des touches sur
disons,
le clavier.
Pour répondre à la question que Nathan posait, c'est surtout qu'en fait, comme tu l'as dit, en soi, c'est les joueurs qui se sont adaptés au clavier. Et en
ça,
soi,
c'est beau d'ailleurs ce que j'ai dit.
C'est très beau, c'est très philosophique.
Oh, une belle remarque.
Je pense que c'est une citation de génie, tu vois. Enfin, ouais. Il faut que ce soit dans un livre de philosophie. Mais en vrai, c'est surtout que je pense au fur et à mesure que le jeu sur PC s'est développé, bah, en fait, il y a eu un espèce de consensus qui est arrivé parce que Quand moi je prends mon expérience de joueur, c'est vrai que pendant très longtemps, les jeux utilisaient les flèches directionnelles pour tout ce qui est déplacement, on va dire, ou déplacement dans l'espace dans un jeu vidéo. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, de plus en plus de joueurs et de gens qui travaillent dans le jeu vidéo sur le PC se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas efficient parce qu'il y avait. Comme la souris est par essence à droite, vu que beaucoup de gens sont droitiers, mais du coup, comme tu utilises ta main droite pour les flèches directionnelles, t'es coincé. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a eu une espèce de décalage qui s'est, où les flèches directionnelles en fait se sont transformées en ZUSD ou WASD du coup pour nos collègues anglophones. C'est bien de penser à eux. Et puis après, il y a tout ce qui a découlé derrière. Tu vois, par exemple, ok, si on se déplace ici, c'est quoi le plus rapide pour la touche de sprint? Comment est-ce qu'on fait pour s'accroupir? C'est quoi la touche d'action la plus proche, etc. Et c'est comme ça que Mage, c'est devenu la touche de sprint par excellence. CTR Control, c'est devenu la touche de crouch, de s'accroupir. W pour s'allonger, etc. etc. Et au final, je pense qu'on est arrivé à un bon niveau, enfin au niveau de la...
À une finalité.
C'est ça. Mais après, je ne sais pas, vu que je suis arrivé en cours de route, je ne sais pas si vous l'avez encore mentionné. Mais c'est vrai.
Sûrement,
parce que vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Évidemment. Vous avez tellement d'avance sur moi.
C'était quoi ?
Et c'était le fait qu'il y a quand même, malgré tout, même si, ici, nous sommes très tolérants à Croustic, en termes de ceux qui jouent sur manette, ceux qui jouent sur clavier-souris. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de comment on va dire ? Les joueurs manettes sont souvent beaucoup plus jugés qu'un joueur clavier-souris.
Ça dépend les jeux.
Ça dépend les jeux. Pour les genres auxquels je joue, je pense surtout à tout ce qui est compétitif, FPS ou en fait. Et c'est vrai que là, en soi, tu as tout de suite un regard.
Celui qui sort la manette,
Voilà, c'est parce que pour que la manette puisse être aussi viable que le clavier-souris, il y a besoin qu'il y ait un aim assist, il y a besoin qu'il y ait parfois des mouvements qui sont un peu plus simplifiés. Et il y en a certains qui considèrent même que la manette, c'est de la triche.
Ouais. Mais c'est de la triche. Mais j'apporte mon grain. Je considère que jouer de la manette, utiliser une manette pour jouer à un FPS devrait être interdit.
Nathan ne va pas être d'accord.
Je pense que les FPS.
Non, mais en compétition, tu parles.
Non, mais même de façon générale. Le genre FPS n'a pas du tout été pensé pour la manette.
On disait qu'on était tolérants ici.
Ah oui, c'est vrai.
Ludo, on va se battre.
Pardon.
Mais Nathan, qu'est-ce que tu dis de ça, du coup ?
Alors, oui, mais d'abord, il y avait Joris qui souhaitait. Tu souhaitais
C'est dans la continuité, là, on évoquait la configuration des touches, que ce soit manette ou clavier. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que quand on entend par manette ou clavier, c'est le prolongement un peu de nous-mêmes. Il y a aussi l'aspect configuration. Il y a certains joueurs qui vont pouvoir jouer que d'une certaine manière à différents jeux. Par exemple, j'ai un truc tout bête, pour eux sauter, ça peut être qu'une seule touche. Et je trouve que le clavier, c'est là un peu l'avantage par rapport à la manette, c'est qu'il n'y a plus cet aspect configuration, comme on peut personnaliser à outrance comme on veut pour jouer à un jeu. Et il me semble que dans la manette, s'il y a moins, ça se fait de plus en plus, mais il me semble que dans le clavier, il n'y a plus cet aspect qui peut être intéressant, je trouve, par rapport aux habitudes des joueurs.
Alors, on n'a pas parlé de la borne arcade, parce que...
Mais j'allais te poser la question, justement, parce que toi, t'es pas très manette, au final.
Non, moi, je suis pas manette. Alors, si, j'étais manette très, très longtemps, parce que j'ai beaucoup joué sur console, Mega Drive, Saturn, Super Nintendo, etc. Donc, j'étais très manette. Et même, ça me semblait assez difficile de quitter la manette pour un stick arcade, par exemple, qu'on pose sur les genoux, etc. Mais... Le jeu sur borne arcade, c'est-à-dire avec une solidité, et finalement, c'est toi qui t'assois devant ta borne et tu n'as plus un stick sur les genoux, a changé pas mal les choses. Et jouer avec un stick aujourd'hui est devenu complètement une habitude pour moi, surtout sur les shoot'em up. Par contre, sur les jeux de baston, j'aime bien ma manette Saturn. Donc, je vais essayer de retrouver pour les jeux de baston une manette qui est proche de la manette Saturn pour un petit peu tous les périphériques pour jouer au jeu de combat. Parce que je trouve que c'est la meilleure manette qui a été conçue. La manette Saturn japonaise, attention, hein, pas la française qui était, ou l'européenne qui était à chier. Mais pour la borne arcade, en fait, pour utiliser mon stick arcade qui est à la borne, qui reste vraiment construit dans la borne arcade, j'essaie par tous les moyens de trouver des périphériques pour installer mes consoles de jeu dans ma borne arcade. C'est-à-dire, j'ai tous les périphériques qu'il faut pour pouvoir utiliser la Xbox dans la borne arcade, pour pouvoir mettre la Mega Drive dans la borne arcade, la PlayStation 2, tout ça. Je suis capable aujourd'hui de brancher n'importe quelle console qu'il y a chez moi dans ma borne pour pouvoir jouer justement avec mon stick arcade, avec mon stick Seimitsu, et c'est important de le dire parce que même au niveau des sticks arcade, si vous avez du Sanwa, du Seimitsu, ça ne va pas être la même on va dire, le même ressenti de jeu. C'est-à-dire, vous n'allez pas jouer pareil avec un stick Seimitsu et un stick Sanwa. Ça ne va pas être la même course. On parle de course de stick. Et ça ne va pas du tout être joué de la même manière. Donc, c'est important quand tu es habitué à un stick, eh bien, de tout faire pour pouvoir utiliser ce stick dans toutes les positions possibles, si j'ose dire. Nicolas.
Oui, et puis il y a un aspect auquel on est en train de toucher avec ce dont tu parles et ce qu'a mentionné Joris avec le fait qu'il y a certains joueurs qui sont conditionnés à jouer que d'une manière. C'est tout ce qui est, bon, par exemple, c'est surtout les sports de combat, mais tout ce qui va être la scène e-sport des sports de combat où en fait les joueurs sont tellement habitués à connaître par cœur leur périphérique qu'en fait, si jamais tu leur donnes un autre périphérique...
C'est ce qu'on disait en début d'émission.
C'est ce que vous disiez, ouais. Du coup.
Et c'est vrai, en fait, ils sont complètement perdus parce que ce n'est pas la même réactivité.
Ben oui.
Il y a aussi le fait qu'un stick arcade ou même une croix s'abîme avec le temps ou va devenir plus souple, alors qu'au début, c'est plus rigide. Et donc, cette souplesse, on s'y habitue à force de jouer sur ce périphérique. Donc après, tu donnes une manette un peu plus neuve à un joueur, mais il va rien sortir. Les Hadouken, il les sortira pas. Les Shoryuken, les combos qu'il a l'habitude de placer en tournoi, etc., il ne pourra pas les placer parce que la croix aura bougé. Ça sera pas du tout la même sensibilité. Il y a des croix un petit peu rugueuses quand on les achète, par exemple. Mais ces croix rugueuses sont un handicap pour certains joueurs.
Voilà. Et puis ça, c'est si jamais c'est sur la même plateforme. Parce que si, par exemple, c'est un joueur qui est habitué à jouer avec une manette Xbox et qu'il fait un tournoi qui est sur PS4, bah, par exemple, là, ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas du tout la même chose.
Voilà, exactement. Ludovic.
Et sur ce côté-là, j'ai souvenir de véritables affrontements entre les joueurs Xbox et les joueurs... et les joueurs PlayStation sur le côté des sticks asymétriques, où en effet, je sais que moi, je considère comme une aberration que les sticks ne soient pas asymétriques, mais moi, j'ai des amis qui en effet, sur une manette Xbox, sont complètement perdus parce que, justement, ils aiment bien avoir une manette avec une croix prédominante, notamment pour tout ce qui va être jeu de plateforme, jeu indé, etc. Tandis qu'en effet, pour jouer au FPS... ou alors pour jouer à des jeux qui ne sont pas des jeux FPS, mais avec des fusils, des jeux plutôt immersifs, une manette Xbox, c'est quand même plus intéressant.
Mais en même temps, je pense que ce débat-là, il a dû aussi avoir lieu parce que, quand on y réfléchit, les manettes GameCube, elles ont aussi le système de Joy-Con asymétrique en soi. Et que donc, le système de Joy-Con qui est parallèle, il n'y a que Sony qui l'a fait en soi. Et qu'il l'a fait qu'à partir de la PlayStation 2. Je pense en vrai que ça dépend aussi du jeu, parce que moi pour le coup, j'avoue que c'est l'inverse du coup. Moi, j'ai surtout joué à la PlayStation, et du coup, m'habituer aux manettes Xbox, ça m'a pris un peu de temps. Maintenant, c'est acté, enfin voilà, je joue beaucoup avec cette manette, mais c'est vrai qu'il y a un confort, je trouve, qu'il y avait par exemple, surtout dans les manettes de PlayStation 2, que j'arrive pas à retrouver forcément dans la manette d'Xbox. Une sorte de c'est intuitif,
automatisme,
en fait.
Ergonomie particulière,
ouais,
par
c'est
rapport
ça.
Au placement des sticks, des boutons, etc.
Mais encore une fois, je pense que ça dépend du jeu. Par exemple, pour tout ce qui est jeu de voiture, par exemple, je pense que la manette Xbox, je la privilégie.
Alors là, il y en a qui vont te regarder avec des
grands
yeux, qui vont te dire, mais il faut un volant et un pédalier.
Ah, il est dans ma cave, ouais, malheureusement. Voilà.
Allez, on quitte on range le matos.
La chronique... musicale.
Alors, on a plein de chroniques dans Grostik ce soir, donc je vais aller vite sur la chronique musicale. Je vais juste dire le titre de la musique qu'on va écouter. Il s'agit d'une musique extraite du jeu Fantasy Zone. Donc la musique est composée par Hiroshi Kawaguchi, plus connu sous le nom de Hiro, juste H-I-R-O. Voilà, c'est le papa de la musique d'Outrun, qu'on a déjà passé dans Grostik. Donc là, c'était en 86 pour un petit shoot'em up tout kawaii. Ça devrait te plaire, ça, Mélissa. C'est kawaii au possible.
C'est très genré ce que tu dis.
Pourquoi ?
D'associer kawaii à la seule personne féminine de l'émission.
Non, ça te plairait.
Il faut dire que Nathan, ça lui plairait.
Alors
aussi.
Nathan, ça te plaira.
vous en prie.
Ça te plaira.
C'est peut-être pas mieux. Hein.
Bon. C'est sans doute pire.
Donc c'est un jeu de Sega qui était sorti en 86 et j'ai reçu chez moi, dans ma boîte aux lettres, le vinyle dernièrement de ce jeu de Fantasy Zone. Alors je ne voulais pas apporter aujourd'hui, j'aurais pu.
Mais t'as pas froid aux yeux. Hein. Voilà. Un vinyle dans
mais
la boîte aux lettres.
On va quand même écouter une des musiques de Fantasy Zone. C'est Keep Me. Keep On The Best. Voilà. Et on écoute tout de suite ça. Et puis on revient juste après pour plus de chroniques. Toujours plus.
Le test.
Alors, il y aura plusieurs chroniques tests, mais c'est avec toi, Béret, qu'on commence.
Et oui, c'est moi qui ouvre le bal, comme on dit. Et puis, ben, pour commencer, je vais dire une chose, je me fais chier. Mais vraiment
mais
pas
en... gros stick.
Non, jamais.
D'accord.
Quand même, attention, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais j'avoue que quand même, je m'ennuie, on va dire, en mode général. Et c'est pas en mode, je sais pas quoi faire, je suis un peu indécis. Non, c'est vraiment, je me fais réellement chier.
T'aurais dû écouter notre débat tout à l'heure dans Passage, hein, je fais le lien entre les émissions, où on a évoqué l'ennui et les bienfaits de l'ennui dans cette société où le divertissement est trop accru et trop présent.
Eh bien, magnifique, voilà. Comme ça, on reste dans le thème et dans la continuité de la journée. Et c'est vrai que depuis plusieurs semaines, j'ai l'impression que je suis arrivé à un point où j'éprouve beaucoup moins ou peu d'intérêt dans les jeux auxquels je joue. Est-ce que c'est dû au temps que je passe devant mon écran?
Il faudrait changer de jeu et pas jouer toujours quand même.
Est-ce que c'est les jeux auxquels je joue? En effet, Nico, est-ce que c'est la bonne question? Est-ce que c'est le temps qui passe et que c'est le fait que je vieillis? J'en ai aucune idée. Peut-être que c'est un mélange des trois. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sentiment m'a donné...
Peut-être en dépression.
Et oui, oui, bravo.
Ah,
c'est
mais
le
non,
bon
il faut
terme.
Pas...
C'est que j'ai commencé à chercher un moyen de essayer de me divertir en fouillant dans mes vieux cartons entre guillemets. J'ai donc commencé à fouiller mes vieilles bibliothèques vidéoludiques sur les plateformes, sur Steam, sur Uplay, pour voir s'il n'y avait pas un petit jeu que j'avais pas joué et qui me donnait envie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Non mais regarde oui, pas non, ce qui se passe à côté de
je
toi.
Je ne regarde pas, je mets les œillères.
Regarde-moi.
Je te regarde. Et un soir, Nicolas, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé et il était resté coincé pendant des années sur ce launcher maudit qu'est Origin, sur PC. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'y avais passé énormément d'heures sur ma vieille PS3 avant de le récupérer sur PC et je n'y ai pas retouché depuis. C'est pas forcément le titre le plus populaire de cette franchise qui est très très connue pour les amateurs de sport automobile, mais il a quand même des arguments pour qu'on l'essaye et qu'on y joue. Et c'est avec cette forme de nostalgie curieuse que j'ai réinstallé et redémarré Need for Speed Most Wanted 2012. Alors, pour les personnes normales qui ne sont pas atteintes par la maladie qu'est le tuning et la beauté des belles voitures, Need for Speed, c'est une série de jeux de course de voitures qui a été éditée et distribuée par Electronic Arts. Cette série, elle fait ses débuts en 1994 avec un premier opus sorti sur PlayStation 1 et sur Sega Saturn, qui est intitulé sobrement Need for Speed, ou pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, le besoin de la vitesse. Avec cet accent, bien sûr. Cette série, Need for Speed, elle a marqué les fans de jeux de course par le nombre de jeux qu'elle a sortis entre 1994 et 2022, la direction artistique et esthétique des voitures, mais surtout les histoires qu'elle racontait. C'est du nanar, mais c'est du bon nanar comme on aime. Il y a des belles voitures, il y a des belles femmes, il y a des beaux hommes, il y a tout ce qu'il faut et il y a de la vitesse.
Alors le premier Need for Speed n'était pas du tout scénarisé comme ça. Hein.
Pas du tout, en effet, mais c'est une scénarisation qui est venue progressivement. Exactement. Et on compte au total, sur cette franchise, un total de 26 jeux vidéo qui sont sortis quand même, c'est un beau palmarès, avec une version online free-to-play que peu de gens connaissent, intitulée Need for Speed World, qui a malheureusement fermé ses portes depuis juillet 2015. Ce sera l'objet d'une future chronique, on a beaucoup de choses à dire sur celui-là. Et pour finir la présentation, eh bien, le prochain Need for Speed, eh bien, il sort très très bientôt, il sort le mois prochain en décembre et il s'intitule Need for Speed Unbound. Le jeu semble prendre un parti beaucoup plus design animé 3D, un risque qui pourrait payer dans les deux sens du terme, donc à voir. Mais revenons à notre jeu. Il faut savoir qu'il existe, comme je l'ai dit, deux Need for Speed Most Wanted qui sont sortis. Le premier est sorti en 2005 sur PlayStation 2, Xbox 360 et d'autres supports et plateformes, avec la particularité que la police ait un rôle extrêmement important et central dans l'histoire et dans l'univers de ce jeu. Le second Most Wanted, quant à lui, est sorti en 2012 et propose une ambiance beaucoup plus moderne et arcade avec l'absence d'une histoire précise et du tuning, ce qui pourrait rappeler, mon cher Nico, le premier Need for Speed. Et je joue, personnellement, je joue à la série Need for Speed depuis l'opus de 1999, à savoir Need for Speed Conduite en état de liberté qui était sorti sur PlayStation
1. C'est beau ça, hein, comme titre.
C'est beau, hein, t'as vu. Et en tant que grand fan de la franchise, j'ai eu beaucoup de Need for Speed, j'ai joué à beaucoup de ces jeux, j'ai pu voir l'évolution de ces jeux au fur et à mesure que le temps s'écoulait et que la formule se renouvelait, changeait, évoluait, s'émancipait. Et ce qui saute aux yeux de prime abord avec ce jeu, c'est la manière dont ce jeu s'offre aux joueurs. On joue un pilote qui n'est pas identifié, ayant pour but de devenir le pilote le plus respecté de la ville de Fairhaven. Le joueur, qui incarne donc ce fameux pilote sans identité, devra donc éliminer un à un les pilotes les plus recherchés de la ville, les membres de la liste noire. Un concept qui est repris du premier Most Wanted de 2005, mais qui a été modernisé avec un système de speed points à récupérer pour pouvoir challenge et défier les membres de la liste noire. Pour bien comprendre ce qui fait la particularité de ce jeu Need for Speed, je vais vous lister les choses singulières qui le font sortir du lot comparé aux autres jeux de cette franchise. Le gameplay, tout d'abord, est un mélange entre la conduite de Need for Speed classique et celle d'un Burnout Paradise. En effet, il est possible de réaliser ce qu'on appelle des takedowns, que j'ai déjà présenté au cours d'une chronique sur Burnout Dominator, sur nos adversaires ainsi que sur la police. Comprenez, si vous arrivez à foncer avec assez de vitesse et dans un bon angle sur une voiture ennemie, eh bien la voiture se crash et vous gagnez des points de takedown. Également, ce qui est possible, c'est de se rendre directement aux courses avant de les lancer. Un principe qui a été repris depuis Need for Speed Underground 2 avec le mode de conduite libre, mais qui est présent également de Burnout Paradise. Le jeu également ne possède pas de système monétaire. Les améliorations, les véhicules ne s'achètent pas avec des dollars ou une autre monnaie, mais doivent être débloqués en jouant et en explorant la ville et la carte. Un peu partout dans Fairhaven, le joueur sera donc amené à découvrir les véhicules disponibles qui sont cachés dans des coins un peu reculés, un peu précis, un peu anodins sur la map. Et vous devrez interagir une première fois avec ces véhicules avant de pouvoir les utiliser et les améliorer. Enfin, la police a quand même un impact assez fort dans le jeu. On dénotera l'absence de musique de poursuite quand vous engagez une course-poursuite avec la police, mais il existe un total quand même de 6 niveaux d'alerte qui mettront à rude épreuve les joueurs les plus aguerris. Et si vous êtes assez fort pour arriver au niveau 6, accrochez-vous parce qu'un camion anti-émeute tentera de vous arrêter à tout prix et foncera sur vous à toute allure, même si vous êtes dans une Dodge Viper ou une Bugatti Veyron. Attention à vous. Bon, alors c'est bien beau tout ça, mais c'est toujours aussi vague parce que le jeu, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, c'est un peu compliqué. En y rejouant, j'ai assez rapidement retrouvé les sensations de vitesse que je ressentais en y jouant sur ma PlayStation 3. Malgré la transition manette-clavier qui était un peu rude, c'est très drôle d'ailleurs parce qu'on en parlait, le gameplay demeure très propre, efficace et donne une envie aux joueurs eh bien, d'arpenter la ville et d'aller toujours plus vite sur les rues de Fairhaven. Faire des courses, échapper à la police, vraiment la liberté la plus totale sur l'asphalte. Seulement voilà, le jeu reflète une tendance qu'on voit depuis une dizaine d'années dans le jeu vidéo, il est vide. Il n'y a pas de réelle histoire pour ancrer le joueur dans l'univers, pas de personnalité chez les membres de la liste noire ou de possibilité de créer sa propre voiture avec l'absence de personnalisation. On ne peut pas mettre de logo tribal, on ne peut pas changer sa voiture en couleur violette. Vraiment, une absence qui est totalement injuste et arbitraire. Pire encore, la police est une très très bonne idée au départ et qui a été volontairement sabotée. Parce que admettons que vous êtes nul et que vous vous faites arrêter par la police. Non, ça n'arrivera pas, je pense pas. Non, vous êtes super fort. Mais admettons quand même, eh bien, il n'y a pas de conséquence au fait de se faire arrêter. Pas de pénalité, pas de retrait de speed points, pas de voiture mise à la fourrière pour un temps donné parce que vous avez enfreint la loi et causé eh bien, des dommages irréparables et colossaux à l'état de Fairhaven. Rien du tout. Du coup, bah, le fait de chercher des noises aux forces de l'ordre n'a pas de réel intérêt, n'a pas de réelles conséquences, à part eh bien, voir combien de temps vous pouvez rester en vie avant de vous prendre une petite tape sur l'épaule par le policier qui vous a arrêté et qu'il vous dise oh, « Attention, hein, c'est pas bien, il ne faut plus faire ça, hein, et je t'y reprends plus hein. », avec ce ton bien sûr. Mais malgré tout ça, ce jeu m'a offert la petite bulle d'oxygène que je cherchais. Certes, je n'ai pas d'intérêt d'y jouer vu l'absence d'objectifs conséquents et importants sur le jeu. Mais lorsque j'ai envie de rien faire ou que j'ai pas envie de me retaper mes quêtes quotidiennes sur Destiny 2 ou Genshin Impact, je peux arpenter Fairhaven avec mon Ford SVT Raptor favori ou ma Bugatti Veyron dernier cri et eh bien foncer à toute caisse et toute berzingue avec de la nitro. Avec ce retour sur Need for Speed, mon retour, j'espère voir cette franchise eh bien, nous reproposer des jeux hauts en couleur et intéressants à jouer. Le prochain Need for Speed Unbound, comme je l'ai dit, arrive en décembre, m'intrigue un petit peu et il me paraît suspect avec cette nouvelle esthétique et design très particulier. Mais qui sait ? Peut-être que mon esprit de vieux con prendra plaisir à faire vrombir le moteur de cette franchise une fois encore.
Vroom vroom.
OVNI. Objet vidéo ludique non identifié.
Un petit OVNI par Mélissa, tiens, ça faisait un petit moment.
Pardon, je prends une voix solennelle parce que on va parler politique. Et il y a 15 jours, nous avions évoqué Jean-Luc Mélenchon dans le débat de Grostik, chose qui peut sembler curieuse, mais en fait, Jean-Luc Mélenchon est l'ami des jeux vidéo, malgré des critiques acerbes qu'il avait pu tenir il y a quelques années. Depuis, Jean-Luc Mélenchon a fait amende honorable, il a atteint la rédemption, puisqu'en 2017 était sorti le premier jeu vidéo mettant en scène JLM. Ce jeu s'appelle Fiscal Combat. Pour information, Fiscal Combat est une série de jeux vidéo engagés, de type beat'em all, développée par le Discord Les Insoumis, un groupe de bénévoles proches de la France Insoumise. Ce jeu sorti en 2017 est sorti à l'occasion de l'élection présidentielle française. C'est un jeu qui, il faut le dire, a provoqué un petit buzz lors de sa sortie. Et pour les élections européennes, le Discord Insoumis a récidivé, puisqu'un autre jeu est sorti le 19 mai 2019, un second opus intitulé Fiscal Combat, Europe Edition avec Manon Aubry, cette fois-ci comme héroïne. Mais on ne va pas parler de Fiscal Combat aujourd'hui. Exit la finance, même si on va en parler un peu quand même, hein, vu que Mélenchon et la France Insoumise, voilà quoi, hein, voilà. Aujourd'hui...
Les impôts.
Aujourd'hui, le jeu dont je vous parle et que j'ai testé pour vous, vraiment, je l'ai fait pour vous, c'est Like, c'est toi. Alors, ça s'écrit Like et toi, mais en fait, on prononce avec le C, parce que sinon, ça veut rien dire. Moi aussi, j'avais pas capté au début, donc je vous informe. Donc, Like et toi, c'est toi. Déjà, ça part mal. C'est quoi, Like ? Ça sonne pas bien, c'est moche, c'est pas terrible. Bah, Like, en fait, ce sont les initiales pour... À votre avis, ce sont les initiales pour quoi ? Eh bien, c'est les initiales pour l'avenir en commun, c'est toi.
J'aurais pas deviné.
Et oui, c'est un peu spécifique. Et l'avenir en commun, c'est quoi ? C'est toi ? Il s'agit du programme politique et idéologique de Jean-Luc Mélenchon pour la campagne présidentielle de 2022. C'était il y a quelques mois, souvenez-vous. Alors on va pas débattre hein, sur les élections présidentielles, je dirais juste qu'avoir le même monarque sociopathe au pouvoir pendant 10 ans, ça fait un peu beaucoup. Donc je disais, like et toi, c'est le dernier jeu mettant en scène Jean-Luc Mélenchon, ou plutôt... le programme de l'avenir en commun. Cette fois-ci, on n'est plus du tout dans un registre beat them all ou dans quelque chose de combatif, car ce jeu vidéo, il s'inspire du concept de Baba Is You. Il est non affilié hein, à celui-ci, mais il s'inspire hein, librement de ce jeu. Et il est open source et libre, alors sauf pour les musiques. Et comme je le disais, il a été développé à 100% par des bénévoles du Discord Insoumis. Aujourd'hui, je voulais tester un jeu pour vous. Sortie des sentiers battus, d'où cet ovni, et j'ai trouvé ça. Like et toi, c'est toi. Au début, j'ai fait la tronche parce que je comprenais absolument rien. D'abord, comment jouer à like, c'est toi et toi. Alors, vous tapez like, c'est toi et toi sur Google. C'est le premier lien. Il y a un site internet et vous pouvez soit télécharger le jeu, soit y jouer sur votre navigateur. Moi, je l'ai téléchargé. Et ensuite, une fois que le jeu est téléchargé, vous accédez au menu et c'est parti. Au début, j'ai rien compris. Donc j'ai rebroussé chemin sur le tutoriel et j'ai rien compris non plus. Et finalement, en jouant un peu au hasard, on finit par comprendre, car en fait, c'est normal. Hein, c'est normal qu'on comprenne rien. Parce qu'en effet, il s'agit d'un jeu de type puzzle casse-tête. Et oui, c'est pour ça que ça me prenait la tête.
Casse-tête,
exactement, Nicolas. Et vous évoluez de niveau en niveau, de map en map. Grâce à ce jeu, vous découvrez au fur et à mesure le programme politique de l'avenir en commun qui est mis en scène. Et finalement, c'est le programme qui est plus matérialisé et représenté que Jean-Luc Mélenchon. Le programme est lui représenté sur la map sous forme de livre avec le sigle de LFI, le petit phi. Et c'est ce livre que vous déplacez alors que Jean-Luc Mélenchon n'apparaît que ponctuellement sous la forme d'une tortue. Dans Like, c'est toi et toi, le but c'est de terminer les différentes étapes du jeu qui se succèdent par différentes maps. Et sur chaque map, vous devez résoudre des sortes de casse-tête puzzle. Par exemple, il peut y avoir des bouts de phrases dans le désordre. Et le but c'est reformer la phrase pour franchir la barrière du capitalisme représentée par une armée de petits bonhommes qui portent une casquette arborant le signe dollar sur la tête. Vous franchissez les étapes et de fil en aiguille, le programme de l'avenir en commun se dessine et est dévoilé et prend le pouvoir. C'est vous qui changez les règles du jeu et de la démocratie. Et oui, rien que ça. Par exemple, il y a un niveau consacré aux médias et à la concentration médiatique détenue par les milliardaires. Si vous me connaissez, vous savez que ça m'intéresse beaucoup. Dans ce niveau, la map du centre est polluée par la concentration médiatique, et votre but, c'est de la dépolluer et reprendre votre pouvoir citoyen. À la fin du niveau, vous pourrez lire « Encerclé par les médias, le peuple s'est servi de la HEC pour en prendre le contrôle. Il n'y a pas de démocratie possible sans information libre et pluraliste. Nos médias sont bien malades de l'argent, de la recherche, du sensationnalisme et de la tyrannie du buzz. La révolution citoyenne doit y être menée sans faiblesse. » Et pour moi, ce jeu est une petite révolution. Si au début on a l'impression que c'est le gros bordel, c'est quand même hyper ingénieux de la part des bénévoles qui soutiennent LFI et le programme de l'avenir en commun de développer un tel jeu. Déjà, c'est le troisième jeu, et celui-ci est complètement différent et plutôt bien pensé. Et si vous n'êtes pas fan de Mélenchon ou de l'avenir en commun, il faut quand même saluer cet effort. Est-ce que je jouerai à un jeu vidéo mettant en scène Emmanuel Macron et ses idées capitalo-capitalistiques autoritaires et qui veut nous faire travailler en tant qu'esclaves de la société de consommation jusqu'à 70 ans ? Eh bien, je vous dirais que ça dépend. Si c'est un jeu de type Shadow of the Colossus, t'emballes pas, Joris. Hein. Je disais donc, si c'est un jeu de type Shadow of the Colossus, tu t'emballes pas, Joris. Où vous incarnez un Macron qui, au début, pense faire le bien et en fait, il fait le mal et il est manipulé, je vous dirais qu'il est fort intéressant de jouer à une œuvre vidéoludique qui dénonce une certaine réalité. Alors que si c'est un jeu qui glorifie notre petit monarque au pouvoir, je vous dirais, berk, on n'a pas besoin de ça, quelle perte de temps. Et d'ailleurs, les soutiens de LFI sont bien plus créatifs et cool que les autres, parce qu'ils ont produit non pas un, non pas deux, mais trois jeux vidéo, et plutôt de qualité. Et en plus, c'est gratuit. Alors heureusement, vous allez me dire, car ça reste quand même un moyen de propagande et de prosélytisme, mais de la propagande version cool. Donc foncez. Écoutez à présent la petite musique du trailer de ce jeu super cool.
Thank you. Grostik sort le matos.
Grostik sort le matos avec Joris et ressortira le matos avec Ludovic.
Oui, pour l'instant, c'est le petit matos. Aujourd'hui, ça va être la chronique hybride parce que c'est matos, mais c'est aussi un peu rétro et ovni, vous allez comprendre. Dans la catégorie curiosité vidéoludique, je vais vous parler des Cube World de Radica. Pour recontextualiser, on va d'abord parler de Radica. C'est une entreprise américaine créée en 1983 qui s'est spécialisée dans la production de jeux électroniques. Une entreprise absorbée en 2006 par le géant Mattel, tel un pauvre flamby sans défense face à Gérard Depardieu. À la base, c'est pas folichon. Radica faisait des petits jeux pour les casinos pendant les années 90, rien de plus. À part si vous étiez un énorme fanat de casinos dans les années 90 aux États-Unis, qui plus est fanat de jeux électroniques, il n'y a pas beaucoup de chance pour que vous connaissiez Radica Games. C'est en 2005 par contre que la société va se faire connaître avec un concept original, les Cube World. Les Cube World Kezaku. C'est tout simplement, comme son nom l'indique, un petit cube de plastique d'une dizaine de centimètres qui se présente sous la forme d'une sorte de mini-télévision. Lorsqu'on allume l'écran, un petit personnage apparaît. Un personnage qui, tel un Sims, va vivre sa vie, se déplacer, te faire coucou, méditer, jouer, dormir, il peut même s'asseoir sur un banc et flâner à la vue des oiseaux qui gazouillent dans le ciel. Chaque cube possède à lui seul une centaine d'animations. Jusque-là, c'est sympa, on a une sorte de poisson rouge électronique, même si un côté glauque dû au fait que ce soit une forme anthropomorphique, on a l'impression d'observer un prisonnier dans sa cellule. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous pouvez en plus interagir avec votre ami prisonnier anthropomorphe. Par exemple, si vous tournez le cube, votre personnage va tomber comme s'il était dans une vraie pièce sur laquelle vous avez le contrôle. Si vous êtes sadique, ce qui est certainement le cas, vous pouvez continuer à faire tourner le cube et voir votre personnage tomber jusqu'à ce qu'il soit totalement désorienté et finisse par vomir. Au final, ça ressemble quand même pas mal à certains jeux déjà développés, notamment le fameux Tamagotchi étant le plus connu. Mais le Radica Cube World va se démarquer sur un point qui fait toute sa spécificité et qui permet de comprendre la dénomination World. Nos cubes sont en fait aimantés afin qu'ils s'emboîtent. Et là, la magie opère. Nos personnages, qui sont seuls par cube, vont, en fonction du nombre de cubes qui les entourent, interagir entre eux. Par exemple, si vous mettez deux cubes côte à côte, leurs occupants vont commencer par se regarder, par se faire signe, et l'un ou l'autre va finir par se déplacer dans le cube de l'autre. Ils vont faire connaissance, se checker, improviser des danses, bref, faire des trucs trop cool auxquels on s'attend dans un petit jeu électronique. Mais là, rappelez-vous qu'il y a quand même une essence un peu glauque dans le jeu. Tout à l'heure, je vous parlais de vomi. Après avoir torturé votre personnage, sachez-le, Radica Cube World entend dépeindre le monde sous toutes ses facettes, même les plus sombres. En effet, il arrive que deux personnages ne s'entendent pas. Et comme dans la vraie vie, il peut arriver que vos personnages interagissent et ne s'apprécient pas du tout, tels Louis Boyard et Cyril Hanouna, et finissent par se foutre sur la gueule. De la danse TikTok, on passe au nion bien à l'ancienne. Bref, on peut empiler les cubes à l'infini sur un axe horizontal mais aussi vertical. Mettez un cube sur l'autre et vos personnages vont trouver un moyen de monter ou de descendre. Ils peuvent s'envoyer des cordes avant de s'envoyer en l'air, comprendre monter au cube au-dessus ou mettre en place des stratégies comme ouvrir des trappes. Parce que oui, pour revenir au fait de s'envoyer en l'air, le jeu est certes réaliste, on peut vomir, on peut se battre, mais il ne me semble pas possible pour nos petits personnages de s'épanouir sexuellement. Quoique, nos amis électroniques peuvent quand même abaisser un store leur donnant un peu d'intimité pendant un certain temps. Que font-ils? On ne le saura jamais. En tout cas, ces Radica Cube World sortis en 2005 ont pu profiter d'un certain succès, leur permettant de se voir réédités malgré leur absorption par Gérard Depardieu jusqu'en 2008. La formule évolue et on a pu voir apparaître des cubes plus grands permettant de faire interagir nos personnages avec des bâtiments. On voit aussi des personnages avec des rôles plus spécifiques, par exemple le pompier, le voleur, le DJ, le livreur Uber précarisé travaillant pour le bobo débonnaire, au final, l'aspect le plus réaliste du jeu. Voilà, c'est ainsi que je termine cette chronique. Je vous invite à voir sur YouTube les différentes possibilités offertes par ces Radica Cube World. Et si vous êtes d'humeur voyeuriste ou sadique, vous pouvez vous en procurer sur eBay.
Grostik sort le matos.
Et on ressort le matos avec Ludovic.
Chers auditeurs, elle est là. Elle est pulpeuse, elle est généreuse. Je dirais même, chers auditeurs, qu'elle a un gros boule. Mais, chers auditeurs, vous devez certainement vous dire, mais Ludovic, de qui parles-tu? Je parle évidemment de la Steam Deck. Je parle de cette console qui qui est un peu le messie, chers auditeurs. C'est un peu l'enfant bâtard du PC gamer de Jean-Kévin et de la Switch Lite de sa petite cousine.
De Mélissa,
qui ont décidé de copuler et qui ont décidé de former un enfant parfait. Et l'enfant parfait, chers auditeurs, que j'ai en main, alors évidemment, ce n'est pas très radiophonique ce que je suis en train de
dire.
C'est
un bébé de 5 kilos quand même.
Exactement, c'est un bon gros bébé, mais vous savez, ces formes généreuses et ces formes même pulpeuses donnent envie de s'y accrocher et de le tenir fortement. Donc, chers auditeurs, qu'est-ce que le Steam Deck ? Le Steam Deck, c'est un projet fou. C'est Valve, une entreprise que vous connaissez tous, qui fait la plateforme Steam, qui a fait des jeux de légende, Left 4 Dead, Counter-Strike, Half-Life, etc., qui se décide un jour, tiens, et si je crée la console portable parfaite ? Alors évidemment, beaucoup de gens, moi le premier, étaient un peu dubitatifs par rapport à cette volonté de Steam, vu que Steam a eu quand même beaucoup de ratés en termes de hardware. Beaucoup se souviennent des Steam Machines, cette tentative un peu bizarre de créer des consoles PC. Je parle même pas de la Steam Controller, vu que je crois être l'une des rares personnes qui a apprécié ce périphérique, des espèces de manettes ou avec des trucs sensitifs qui permettent d'imiter la souris. Bref, à part le Valve Index, mais ça c'est pour les 2-3 personnes qui aiment bien jouer à des jeux très bizarres en VR, personne ne connaît l'expertise véritable de Valve en termes de hardware. Ben, l'année dernière, il y a un an et demi, Valve s'est dit, il faut qu'on puisse créer une console portable qui ne soit pas cantonnée uniquement au jeu d'un constructeur tiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez une Switch, mais vous pouvez jouer qu'au jeu approuvé et voulu par Nintendo. Quand vous achetiez une PSP à l'époque, une PS Vita, vous pouvez jouer et ne pratiquer que les jeux qui étaient approuvés par PlayStation. Et Steam s'est dit, tiens, on va apporter le côté portable d'une console portable, d'où le nom, et en même temps apporter la liberté. C'est cet esprit vraiment où on se dit, cette console nous appartient, cette console c'est un peu nous, cette console c'est notre PC, on peut y faire exactement ce qu'on veut. Eh bien, en fait, c'est ce qui a donné à la Steam Deck. Alors, beaucoup de gens ont un rapport assez particulier à la Steam Deck parce que c'est une console qui est pas très jolie, il faut le dire. Quand on la compare à la Switch, qui a un côté un peu plus sexy. Vous savez, si je faisais une comparaison, la Steam Deck, c'est un peu cette voisine de classe. C'est cette voisine de TD qui est un peu pulpeuse, mais qui met plutôt des vêtements amples. On ne sait pas qu'est-ce qui se cache dans ces vêtements amples. On ne sait pas qu'est-ce qui se cache dans ce Switch. Dans ce Switch, d'ailleurs. Tandis que la Switch, c'est vraiment cette petite fille modèle qui va faire du sport, qui va à Naturalia, qui fait ses courses à Biocoop. Mais
j'espère qu'elles sont majeures, au moins.
Oui, elles sont toutes les deux majeures. Mais vous savez, ce qui est vraiment bien avec la Steam Deck, c'est que sous ce sweat ample, sous ce jogging dégueulasse Adidas, il y a des choses intéressantes. Il y a une capacité à faire tout ce que vous souhaitez. La Steam Deck est sous Linux. Donc c'est une console qui vous permet de faire exactement ce que n'importe quel ordinateur portable pourrait faire. Ordinateur portable n'a plus de batterie en cours, vous pouvez sortir votre Steam Deck et y accrocher un clavier et vraiment noter votre cours. Vous avez une problématique avec certains jeux, vous n'arrivez pas trop à jouer sur Switch parce que vous savez, sur Switch il va jamais y avoir des jeux comme Fallout, il va jamais y avoir des jeux comme Forza. Il y a quand même certains jeux et certains types de jeux qu'on ne trouvera jamais sur Switch. Ce qui est assez intéressant avec la Steam Deck, c'est que avec son écran de 7 pouces de 800p, alors évidemment c'est pas une définition incroyable, mais ça vous permet de jouer à la majorité des jeux dans une configuration assez respectable, et surtout de jouer à des jeux comme Cyberpunk 2077. Alors certains me diront, vu le jeu, est-ce qu'on a envie d'y jouer ? Mais le jeu a été patché, le jeu a été amélioré, et vous pouvez jouer de façon assez simple sur une console qui ne coûte que 400€ et qui vous permet de jouer à des jeux beaucoup moins chers. Alors certains me diront que la Switch coûte moins cher, mais au vu des prix de la Switch, évidemment, vous pouvez vous y retrouver en termes de tarifs. En tout cas, dites-vous une chose, si vous étiez plutôt team, petite voisine avec Switch et avec jogging ample, et que vous avez toujours préféré ce genre de personne, la Switch est pour vous. Le Steam Deck est pour vous.
Alors, il loupe la fin.
Je loupe la fin, c'est terrible.
Merci beaucoup à tous. C'est la fin de Grostik. Tout de suite après nous, c'est Passeport. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours. Salut à tous.
Salut.
Salut.